I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'enfant, il n'a qu'une seule envie, c'est d'explorer le monde. Ce qui est important, c'est que le parent soit là, à l'écoute de son enfant, et qu'il lui fasse confiance, et lui apprendre les choses qu'il peut faire, et les choses qu'il ne peut pas faire. Préférer la réparation à la punition et d'encourager en fait les bons comportements.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série sur les questions de la protection des enfants, mais aussi de la surprotection. Je suis à nouveau accompagnée du docteur Annie Elbez, que nous retrouvons, qui était venue nous donner plein de conseils pour prévenir les accidents de la vie courante. Bonjour Annie.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à Maison Alfort, vous avez été praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Créteil en néonatologie, coordinatrice pédiatrique d'un réseau de suivi d'enfants prématurés dans le Val-de-Marne. Vous faites partie d'un groupe de recherche clinique en pédiatrie et de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'AFPA. Je reçois dans mon cabinet des parents particulièrement angoissés, inquiets pour leurs enfants qui, voulant bien faire, vont développer, avoir des attitudes de surprotection à l'égard de leur enfant. Ce qui m'a amené à m'interroger, voilà, les parents d'aujourd'hui sont-ils plus stressés qu'avant ? Les enfants sont-ils plus en danger qu'avant ? C'est vrai que moi, je fais partie d'une génération de parents. On a fait du vélo sans casque, où les aires de jeu n'étaient pas toujours sécurisées, où voilà, on dormait dans des lits où la peinture n'était pas forcément adapté pour les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on observe aujourd'hui vraiment un précautionnisme très important auprès des enfants, avec des angoisses qui deviennent presque de la paranoïa chez les parents? Moi, j'entends énormément de parents qui passent leur temps à dire « Attention, ça glisse, ça penche, ça pique, tu vas tomber, tu vas te faire mal. » Les listes des avertissements et des interdits n'en finissent plus de s'allonger. Selon vous, Annie, pourquoi les parents d'aujourd'hui sont-ils plus stressés que les parents des générations précédentes ?
Alors, oui, Mathilde, je crois que vous avez raison. Ils sont plus stressés et pour différentes raisons. Mm-hmm. J'en verrai trois. D'abord, social, c'est-à-dire que la société a changé. La mondialisation fait que les tensions, l'insécurité ont augmenté et que l'inquiétude dans le monde est croissante. Le monde est plus hostile. On a sans arrêt le reflet d'attentats, d'accidents, d'enlèvements, de pédophilie. Voilà. Donc, cette société a changé, en tout cas.
Toutes ces choses-là existaient avant, mais on en parle peut-être plus aussi aujourd'hui.
Exactement. Ouais. Et on le verra plus loin, c'est-à-dire qu'il y a aussi la famille qui a changé, parce que la pression sociale s'est accrue, il est plus difficile de concilier travail et famille, les unions sont moins longues, les parents sont souvent isolés, il n'y a plus de soutien familial et il n'y a plus de transmission transgénérationnelle. C'est-à-dire que le savoir bébé, le savoir enfant ne se lit que dans les livres ou dans les réseaux sociaux, etc. Et il n'y a plus la transmission du vécu des parents et des grands-parents. Et puis la place de l'enfant a changé dans la famille, c'est-à-dire que Maintenant, la famille se construit autour de l'enfant et les familles comportent moins d'enfants qu'autrefois. L'enfant est devenu le centre d'attention des parents, un objet très narcissisant et les parents ont envie de faire le mieux pour leur enfant. C'est vraiment très important.
Oui, la parentalité est devenue aussi un véritable enjeu de réussite narcissique individuelle pour chacun des parents.
Exactement, exactement. Alors, il y a en plus cet enfant précieux dont vous parlez, c'est-à-dire enfant précieux parce que issu de grossesses tardives, de procréation médicale assistée, etc. Et il y a aussi le problème des familles monoparentales qui sont des familles probablement avec une surprotection peut-être un peu plus importante. Enfin, en tout cas, il y a cette place de l'enfant qui a changé et il y a des parents qui sont plus anxieux qu'avant, qui ont peut-être été eux-mêmes victimes de négligence pendant leur enfance et qui veulent absolument éviter d'affronter des situations inquiétantes ou difficiles pour leur enfant. Alors, est-ce qu'il y a plus de danger qu'avant ? C'est la question que vous me posez. Moi, je ne le crois pas. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une surmédiatisation des drames. L'info en continu, ça perturbe énormément. Les réseaux sociaux qui alimentent constamment les peurs des parents. Paradoxalement, en fait, on vit quand même dans une société beaucoup plus sécuritaire. Les aménagements de sécurité autour de l'individu sont quand même bien, bien établis. Donc, je ne crois pas qu'il y ait plus de danger qu'avant. Mais dans la mentalité des parents, il y a les progrès de la science. Et donc, le risque zéro pourrait exister pour certaines familles. Or, on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. Voilà.
Bien sûr. Annie, qu'est-ce que c'est protéger de manière adéquate un enfant ?
Alors, on a vu dans le chapitre précédent sur les accidents domestiques, c'est-à-dire que un enfant, il a besoin qu'on réponde à ses besoins. Ses besoins qui sont des besoins de sécurité, d'amour, d'attachement et de stimulation en fonction de son âge et des étapes de son développement. Donc, en fait, le protéger de manière adéquate, ça va être d'adapter ses attitudes éducatives en fonction de l'âge de l'enfant et donc en aménageant des conditions de vie qui favorisent son exploration, son autonomie et le fait qu'il puisse faire des erreurs pour se confronter à sa réalité et progresser.
Qu'est-ce que vous entendez par attitude éducative ?
Alors, l'attitude éducative, ce qu'on appelle l'éducation bienveillante, c'est-à-dire que on va chercher à éduquer son enfant en le guidant, mais en le contrôlant, mais en ne le dominant pas. C'est un peu la règle. C'est ce qu'on appelle la parentalité positive qui va se faire dans une communication empathique. C'est-à-dire qu'on va montrer à l'enfant sans le mettre en position d'infériorité et sans qu'il y ait de rapport de force. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être autoritaire. Ça veut dire qu'on va proposer des solutions, essayer d'être dans un espèce de dialogue avec une espèce de aller-retour permanent entre le parent et l'enfant.
Oui, et dans cet aller-retour, il ne s'agit pas pour le parent d'être un parent parfait.
Exactement. On a le droit aux erreurs. On ne fait pas tout bien et que même si on n'est pas à 100% dans un modèle idéal, on pourra revenir avec l'enfant sur ses erreurs, sur ses mouvements d'humeur, sur son irritabilité, parce que les journées sont difficiles. Essayer de faire, on fait toujours de son mieux.
Je parle souvent de l'éducation bienveillante comme un phare, voilà, quelque chose qui va nous donner une direction vers lequel on doit tendre, mais ce n'est pas forcément exactement ce qu'on doit être.
Exactement.
Et ça n'est pas possible parce que les parents ne sont ni des robots ni des machines. Annie, pourquoi c'est important pour l'enfant d'explorer et de faire des erreurs ?
Le but d'un enfant, c'est de grandir et de développer son autonomie. Donc, avec tous les apprentissages qui vont se présenter à lui, il va développer son intelligence, en fait. Et il va apprendre, et donc Un enfant est curieux, il est très, très actif, il fouille partout, il apprend à manipuler les objets, il remarque les formes, les textures. C'est pour ça qu'on est un peu contre les écrans qui donnent souvent une réalité virtuelle. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant puisse avoir en lien direct avec son esprit l'objet, la sensation, etc.
D'expérimenter dans son corps.
Exactement, exactement.
Souvent, les parents ont tendance à vouloir surprotéger leur tout-petit et donc l'empêcher de faire des erreurs. Là, je pense à tous ces parents qui vont éviter que l'enfant tombe, alors que pour apprendre à marcher, il faut tomber.
On ne peut pas éviter que l'enfant fasse des erreurs. Et surtout, s'il fait des erreurs, il ne faut pas le dévaloriser. C'est-à-dire que ça fait partie de son apprentissage. Si, par exemple, il renverse du lait sur la table, il faut lui proposer gentiment de l'aider à nettoyer. Et puis, il apprend ainsi comment on nettoie une table. Et puis, le plus probable, c'est que... il ne va pas recommencer. Il comprend sa maladresse, il comprend qu'il ne faut pas forcément le refaire. Il va développer d'autres stratégies qui vont lui permettre de ne pas recommencer et d'avoir une considération vis-à-vis du parent qui a donc donné le message et que le message est bien reçu. Voilà. S'il veut par exemple s'habiller seul, il peut mettre des choses de couleurs différentes, il faut l'encourager parce qu'il a pris l'initiative et au contraire, il va être plutôt fier de montrer son habileté. Et donc, il faudra l'encourager.
Oui, là, vous preniez l'exemple de renverser du lait. Si l'enfant a envie de se servir lui-même, c'est comment le parent va mettre les conditions en place pour que ça puisse se faire en sécurité et accompagner, valoriser son enfant. Et que s'il en met à côté, en effet, on va prendre l'éponge, nettoyer, mais que cette expérience et le fait de le vivre dans son corps va aider l'enfant à acquérir, c'est un apprentissage à acquérir, à mieux viser dans le verre et à ne pas reproduire cette erreur ou cette maladresse.
Tout à fait, tout à fait. Il va montrer progressivement qu'il est aussi compétent que ses parents. Toute la réussite, en fait, de cette éducation-là. Voilà.
Les enfants sont très curieux, aventuriers, ils prennent des risques. Comment un parent peut-il... se positionner par rapport à cette prise de risque?
Alors déjà, c'est tout à fait, comme vous le dites Mathilde, c'est tout à fait normal qu'il prenne des risques. Hein. Ça fait partie de sa stratégie, c'est-à-dire qu'il va se développer en testant en permanence ses limites et en essayant de connaître un peu ses capacités, jusqu'où il peut aller. Alors, ce qui est important, c'est que le parent soit là, à l'écoute de son enfant et qu'il lui fasse confiance. C'est-à-dire que un enfant va probablement monter une roche s'il sait comment descendre, en fait. Hein. Il va pas prendre des risques inconsidérés. Hein. S'il sent qu'il peut grimper à l'arbre, il grimpera parce qu'il sait comment le faire. Donc, probablement que le maître mot, c'est d'être là et de faire confiance à son enfant qui va tester sans arrêt ses limites et les engranger comme des expériences qui le nourrissent.
Là, dans ce que vous dites, on entend qu'il y a une différence entre la question du risque et la question du danger.
Mmh. Tout à fait. C'est-à-dire que le danger, il va être évalué par les parents. C'est-à-dire que si l'enfant ne voit pas un tuyau de métal qui dépasse d'une structure, c'est tout à fait normal. Et c'est le parent qui va être à côté, qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de danger autour de l'enfant. Le risque, c'est l'enfant qui va sauter en avant d'une roche et décider plutôt de la redescendre à quatre pattes parce qu'il a conscience de son risque. Le danger, ça va être... une protection qui va être initiée de la part du parent. Voilà.
Donc là, vous nous dites bien qu'en tant que parent, c'est mettre en place un cadre sécurisé, un environnement sécurisé, pour permettre à l'enfant, dans cet environnement, de prendre des risques, de faire des erreurs, pour favoriser ses apprentissages et l'acquisition de son autonomie,
tout à fait,
de la
tout
valeur
à fait.
Qu'il a en lui, etc.
Tout à fait. Voilà.
Du coup, Annie, à partir de quand on peut parler de surprotection ?
Surprotéger un enfant, c'est faire les choses à sa place. De trop lui montrer et d'éviter à l'enfant de se blesser, d'avoir du chagrin, etc. Parce que on a envie du mieux pour lui. Hein. Donc voilà, il faut lui montrer des gestes simples. Par exemple, quand il monte un escalier ou quand il descend un escalier, il faut rester à côté de lui, mais il faut pas sans arrêt lui tenir la main parce que il va se sentir progressivement dépendant de l'adulte, dépendant, et ce qui va complètement nuire à son autonomie. Hein. Et ça, c'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en lui, ne pas faire des choses à sa place, même si on a l'impression que le maître mot, c'est de faire attention à lui et de le surprotéger, eh bien, il faut essayer de faire machine arrière et essayer de lui donner l'impression qu'il peut faire les choses et on est derrière lui. Voilà.
Oui, là, il s'agit de valoriser sa confiance, ses compétences, ses capacités, alors que si on lui tient tout le temps la main, on peut lui envoyer aussi le message qu'il n'est pas capable.
Exactement. Exactement.
Et ça peut nuire, du coup, et le limiter par la suite dans ses apprentissages.
Tout à fait. La surprotection est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour l'enfant. De la même manière, à l'inverse, la négligence. On sait qu'il y a des parents qui, malheureusement, pour des tas de raisons, peuvent être négligents. Et ça, effectivement, ça entrave le développement de l'enfant. Tout à fait.
Du coup, Annie, comment les parents peuvent-ils protéger leur enfant, mais sans le surprotéger ?
C'est un voyage entre les deux extrêmes et c'est un jeu un peu d'équilibriste entre protéger et éviter les dangers et puis laisser faire pour que l'enfant devienne autonome, acquiert progressivement des capacités physiques, de l'intelligence, etc. Donc en fait, au lieu d'interdire, le faire réfléchir, lui faire reconnaître ses émotions, ne pas le rabaisser, essayer de préférer la réparation à la punition et d'encourager en fait les bons comportements. C'est tout ce travail de parent qui n'est pas un travail très simple parce qu'il faut être disponible, ne pas avoir peur, avoir suffisamment confiance en soi pour suffisamment avoir confiance dans son enfant, bien entendu.
Réparer que punir.
Oui.
Donc si on reprend cet exemple de l'enfant qui va renverser quelque chose, voilà, il vaut mieux éviter dans la mesure du possible de lui crier dessus, mais en effet l'encourager à essuyer, à réparer, à nettoyer. C'est quelque chose qui sera plus positif tant pour le parent que pour l'enfant,
d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait.
Du coup, là, dans ce que vous nous dites aussi, et avec cet exemple, il y a cette idée finalement de faire vivre des expériences positives à l'enfant.
L'enfant, il n'a qu'une seule envie, c'est d'explorer le monde, de faire les choses et qu'on ne les fasse pas à sa place. Le travail du parent, ça va être de le réconforter et de jouer, d'enseigner dans tous ses apprentissages. Parce que c'est ainsi qu'il va devenir de plus en plus autonome. C'est-à-dire que l'aider à aller de l'avant, mais comme il n'est pas conscient du danger, eh bien, il faudra essayer d'être aussi un petit peu en arrière pour éviter qu'il se mette en position d'insécurité. Et lui apprendre les choses qu'il peut faire et les choses qu'il ne peut pas faire.
Annie, qui sont ses parents surprotecteurs ?
On a l'impression que les mères sont un peu plus protectrices que les pères, mais on a maintenant une génération de pères qui sont aussi extrêmement protecteurs, notamment quand ils sont angoissés. En fait, c'est le lot de parents angoissés, le lot aussi de parents qui ont eu affaire à ce qu'on appelle un enfant précieux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des grossesses tardives, des parcours de procréation médicale assistée, des enfants prématurés ou des enfants qui ont été malades, très malades. Et puis, quand il y a eu des histoires familiales dramatiques avec des fausses couches, des deuils, des séparations. Donc ça, c'est un peu le profil des parents surprotecteurs.
Pourquoi un parent va adopter une telle attitude ?
Le plus souvent, ce sont des parents qui ont peur pour eux-mêmes. Donc, qui transmettent ça à leur enfant, sont des parents qui sont dans des sentiments d'insécurité et qui sont angoissés, qui veulent le meilleur pour leur enfant. Donc, ils ont l'impression que tout ce qui peut être difficile pour l'enfant est à éviter. Et ce n'est pas effectivement leur rendre service. Et puis, il y a des parents qui ont peur que leur enfant grandisse, peur que leur enfant leur échappe. Et on voit assez souvent des enfants qui sont un petit peu entravés dans leur développement parce que ils ont affaire à des parents qui ont un petit peu peur de tout.
En tout cas, là, ce que vous dites, ça évoque quelque chose qu'on évoque beaucoup dans parentalité, qui est le fait, voilà, en effet, qu'on ne peut pas protéger les enfants de tout et que ce qui peut paraître négatif, alors là, je pense à la tristesse, aux pleurs, où il y aurait cette volonté d'effacer, d'annuler, mais au contraire, c'est voilà, comment accueillir ça, ça fait partie de la vie, et finalement, de pouvoir l'accueillir, on va pouvoir en faire quelque chose ensemble, et ça va être beaucoup plus rassurant et constructif
tout à fait.
Pour l'enfant.
Tout à fait.
Dans les parents que je reçois, j'observe aussi qu'il y a des parents qui ont ces attitudes de surprotection. Et souvent, vous disiez, ces parents qui ont peur et qui, du coup, protègent l'enfant de leur propre peur par projection. Donc là, je pensais à plusieurs mamans que j'ai pu accompagner qui ont des difficultés à se séparer de leur enfant et qui, du coup, vont dire « mon enfant est fragile, mon enfant est sensible » pour légitimer, finalement, le fait qu'il ne se sépare pas, quoi.
On voit beaucoup ça pour les enfants qui rentrent à la crèche, par exemple. Souvent, la première séparation. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là que des mamans décompensent. Et quelquefois, les enfants s'arrangent pour être malades à ce moment-là et retardent l'entrée à la crèche, répondant inconsciemment au désir des parents comme ça. C'est assez fréquent.
Du coup, un parent qui s'aperçoit qu'il est dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il peut faire ?
À partir du moment où il a conscience de ça, parce que ce n'est pas évident d'avoir conscience de cette surprotection, il faut qu'il en parle et qu'il en parle facilement à son médecin et qu'il se fasse aider effectivement par un psychothérapeute. Thérapeute qui est tout à fait disposé à recueillir un petit peu cette anxiété et la déplacer, en fait.
Bien sûr. Puis là, dans ce que vous dites, c'est le fait déjà de pouvoir l'identifier, c'est déjà un pas énorme.
Tout à fait, tout à fait. Alors ça se fait souvent, par exemple, dans nos cabinets, au moment de partir, de dire au revoir, parce qu'on n'ose pas forcément dire ce travers, parce que c'est quand même aussi vécu comme quelque chose de pesant. Hein, donc voilà. Donc on en discute beaucoup dans les cabinets médicaux, ça c'est sûr. Ouais.
Annie, quelles peuvent être les conséquences pour les enfants de la surprotection ?
Alors les conséquences, c'est la perte d'autonomie. C'est-à-dire que l'enfant se trouve maintenant, alors qu'il est en pleine exploration d'univers, il se trouve privé de sa liberté d'action. Et ça, c'est un effet assez catastrophique. Lorsque vous dites que effectivement les peurs d'adultes vont se transférer à l'enfant, c'est tout à fait ça. Et l'enfant va intérioriser ses peurs et ne va pas aller de l'avant. Il va être collé un peu au jupon de sa mère ou rester dans ce cadre-là, ce qui va l'empêcher de s'émanciper, en fait.
Voilà. Donc là, l'enfant qui sera décrit comme sensible, fragile, peut finalement intégrer cette projection parentale, en faire sienne et d'une certaine manière devenir comme ça.
Exactement, exactement. Et chercher toujours finalement un adulte protecteur. Plus tard dans son développement, il aura toujours besoin d'une espèce de certificat pour dire tu peux aller là, tu peux faire ça, etc. Parce qu'il n'aura pas suffisamment acquis de confiance en lui. Voilà. Ouais. Et puis il y a d'autres enfants qui, au contraire, vont être très casse-cou et vont aller braver les interdits, etc. Parce qu'il y a cette espèce d'étouffement qui devient insupportable et l'enfant va réagir en testant ses limites, mais en testant les dangers et des risques inconsidérés. Voilà.
Oui, en tout cas, voilà, vous nous dites bien quand même que cette surprotection, elle a des conséquences dans le développement, tant moteur qu'affectif, et aussi dans la manière dont l'enfant va se percevoir et se vivre de l'intérieur, la question de l'estime de soi.
Et tout à fait, c'est-à-dire que plus il aura conscience de ses forces, plus il aura conscience de ses limites, plus il aura un adulte bienveillant qui l'encouragera dans ses apprentissages, et plus il aura cette espèce d'estime de lui-même qui feront qu'il avancera pas à pas, en fait.
Du coup, vous nous disiez tout à l'heure que comment accompagner les enfants en les protégeant sans les surprotéger, que c'était un peu un jeu d'équilibriste entre ces deux extrêmes. Quels conseils vous aimeriez donner aux parents pour les aider à cheminer et à trouver un équilibre?
C'est ça, c'est trouver l'équilibre. Et la cible, c'est bien entendu de nourrir la confiance en soi de l'enfant. Ça, c'est indispensable. Et donc, on a vu tout à l'heure de l'encourager, de l'assurer de l'affection de ses parents, et puis d'établir des limites claires que l'enfant aura aucune difficulté à comprendre, qu'elles soient assez harmonieuse entre le père et la mère, qu'il n'y ait pas de message contradictoire, et de mettre cet enfant en confiance tout en sécurisant à la fois son espace, au-delà de son espace. Alors, l'idée, c'est quand même d'essayer que le parent intériorise son angoisse et qu'il ne le diffuse pas à l'enfant. Et il y a 6 mots-clés à retenir pour arriver à cette manière d'élever sans surprotéger. C'est d'abord le plaisir qu'on a à partager des expériences ensemble, hein, apprendre, découvrir. Il faut que l'enfant apprenne la vie en société, qu'il ait le goût d'apprendre. Il faut que les parents dégagent du temps pour que, justement, il soit en communauté avec l'enfant et qu'il y ait du plaisir autour de tout ça. Et puis, bien entendu, exprimer à cette occasion-là ses sentiments d'amour. Et l'enfant va le reconnaître. Hein. C'est quelque chose qui est important, qu'il grandisse en étant sûr de l'amour que lui portent ses parents. Alors, le troisième mot-clé, c'est la sécurité. Effectivement, il faut absolument pas mettre de barrières qui vont entraver l'autonomie de l'enfant, mais lui apprendre les dangers, les consignes doivent être claires, cohérentes. Ça permettra effectivement à l'enfant d'avoir moins d'inquiétude et de pouvoir affronter le monde tranquillement. Et puis, ce qui va avec, c'est l'autonomie. On en a beaucoup parlé et ça va être un mot-clé qui va permettre à l'enfant de grandir et d'apprendre les choses par lui-même. Et faire naître ce sentiment de fierté. C'est-à-dire que chaque étape que l'enfant va franchir, montrer que c'est drôlement bien. Il est capable de grandir, il est capable, même s'il est quelquefois insolent, même si il a des échecs, c'est pas très grave. Mais on est drôlement content quand même qu'il ait réussi, qu'il ait des réflexions pertinentes, etc. Et tout. Et puis faire en sorte que l'enfant ait de l'espérance en fait, qu'il ait l'assurance que effectivement tout ça va l'aider à grandir et va l'aider à explorer le monde en fait. Voilà.
Dans ce que vous disiez tout à l'heure de l'angoisse des parents, de l'intérioriser pour pas qu'elle se répercute sur les enfants, l'intérioriser, ça veut pas dire forcément la garder pour soi. Ça veut dire en parler, la nommer, l'identifier, en tout cas en faire quelque chose pour pas justement qu'elle envahisse
tout à fait.
Et là, ce que vous nous dites sur notamment la sécurité, les limites, là, c'est chaque parent aussi en fonction de son histoire qui va construire quelque chose qui va être différent à chaque fois.
Tout à fait.
Donc en tout cas, vous nous dites bien, Annie, être parent, c'est se retrouver dans la peau. J'aime beaucoup cette image de l'équilibriste qui va composer quotidiennement avec la vigilance, le lâcher-prise, afin de faire grandir son enfant. Un enfant va se livrer à une exploration enrichissante du monde qui l'entoure à la condition d'avoir l'assurance de cette sécurité affective donnée par ses parents. J'aime beaucoup cette phrase de Winnicott qui dit « Nous ne grandissons que si chacun d'entre nous a eu au commencement une mère capable de nous faire découvrir le monde à petite dose, l'agrandissant très progressivement afin de satisfaire notre capacité grandissante de jouir du monde. »
Alors c'est une phrase fétiche moi que je donne tout le temps parce que c'est effectivement un comportement qui est à la mesure de l'enfant, du fait qu'il grandisse comme ça. Et vous voyez, on a beaucoup parlé de sécurité tout à l'heure, de la maison, d'éviter les dangers, etc. Mais on tombe tout à fait sur un élément clé de tout cela, c'est la sécurité affective. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est d'abord la sécurité affective qui va permettre à l'enfant de se développer et de grandir et de devenir autonome. Voilà.
Oui, et puis là, moi, les parents que j'accompagne, beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément, pour plein de raisons, cette sécurité affective. Et du coup, vont se retrouver en difficulté avec leur enfant pour permettre à leur enfant de développer celle-ci. Mais là, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, c'est quelque chose qui peut bouger, qui peut évoluer. On peut travailler et se renforcer soi pour mieux accompagner ses enfants.
C'est tout à fait ce qu'on rencontre en consultation, c'est-à-dire que les parents ont besoin qu'on les aide dans ce que j'appelle la guidance parentale, c'est-à-dire donner des conseils pour qu'effectivement, ils aient la sensation de bien faire et d'accorder de la confiance à leur enfant. Et ce sont toujours des ajustements qui se font de consultation en consultation. Alors, en tant que pédiatre, c'est des messages que je délivre. Et puis, quand le questionnement est plus important et difficile à solutionner, ce sont des parents que j'adresse facilement à des psychothérapeutes. ou à des groupes de parents avec des psychologues qui sont là pour que les parents puissent se confronter à des expériences analogues, qu'ils ne se sentent pas seuls et que, qu'ils sachent que c'est quelque chose de courant à partager et à améliorer.
Oui, en tout cas, de ne pas se sentir seul dans certaines difficultés, ça permet d'en avoir moins honte.
Exactement.
Et du coup, de pouvoir les dépasser.
Exactement, exactement. Je dis toujours, le métier de parent est le métier le plus difficile.
Bien sûr. on le dit très souvent aussi dans parentalité. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Annie, si vous deviez nous conseiller un livre, une vidéo ou autre.
Alors, moi, j'aime bien le livre de Jeanne Nelsen, qui est La discipline positive, qui est une collection Poche Marabout Enfant. Et puis, il y a un site canadien qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle Naître et Grandir, où il y a énormément de conseils pratiques. Et il y a beaucoup, beaucoup de... C'est une mine d'or.
Voilà. Oui, il y a en effet des articles qui sont passionnants. Et sur tous les thèmes autour de la parentalité. Un très, très grand merci, docteur Annie Elbez, d'avoir partagé avec nous vos réflexions, vos conseils pour aider vraiment les parents à développer une attitude la plus juste possible et la plus adaptée et confortable aussi pour eux. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre à Maison Alfort. Merci vraiment pour tout.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.